qui est super courant.
Bon, ben, bonjour, donc je vais commencer par apporter mon témoignage sur expliquer mon parcours. Parce que je suis pas au CNRS, donc je suis professeur à l'ENS Paris-Saclay. Mais j'ai été au CNRS, donc j'ai un parcours linéaire. Donc j'ai fait ma thèse à Grenoble, il y a longtemps, hein, aux années 80. Voilà. J'ai été à TER, à l'ENSIMAG. Et puis je suis entré au CNRS, donc j'étais à Oléry, à l'Université Paris-Sud, affecté à l'ingénieur maire. Donc ça c'est une des caractéristiques des chercheurs CNRS, ils sont affectés le plus souvent aux unités mixtes de recherche. Et donc là, j'ai continué ma carrière comme chercheur, j'ai été aussi directeur de recherche. Et puis j'ai bougé, je suis allé avec d'autres collègues construire un laboratoire à Cachan, en tant que directeur de recherche. Alors le CNRS offre aussi pas mal de possibilités à cette époque et encore aujourd'hui, même si c'est mieux encore aujourd'hui, c'est par exemple de partir une année ou plusieurs années à l'étranger avec le soutien de l'organisme. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis parti en Californie, à Stanford, pendant une année, je suis revenu, et là j'ai fait aussi quelque chose qui n'est pas très habituel, c'est-à-dire j'ai même aussi fait quelque chose qui n'est pas très habituel et qui est peu connu, c'est que j'ai eu une année en délégation à l'université. Là, c'est pas très connu parce qu'on connaît surtout les délégations des anciens chercheurs vers le CNRS, mais il y a aussi des délégations de chercheurs vers l'université. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai été professeur d'informatique pendant une année. J'ai toujours aimé l'enseignement, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc quand je suis revenu, j'ai fait quelque chose d'inhabituel, c'est que j'ai pris la direction de l'UFR, donc du département d'enseignement, c'est-à-dire en tant que directeur de recherche CNRS, j'étais responsable de l'enseignement. Et voilà. Et après, j'ai profité peu après d'un poste qui s'est ouvert pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire professeur d'informatique. Donc j'ai été recruté comme professeur d'informatique. Et aujourd'hui, si je suis ici aussi, c'est que, actuellement, cette année, en fait, je suis à mi-temps au CNRS. Donc, je suis en demi-délégation au CNRS. Donc, vous voyez, c'est un parcours mixte entre l'enseignement supérieur et le CNRS. Et je suis en demi-délégation parce que, donc, j'ai été élu au Comité national de la recherche scientifique en section 6, sur la liste spécifique campus, et ensuite élu président de la section 6. Voilà, ça fait 2 ans que le comité est en place, et pour encore 3 ans. Et à ce titre, donc, aussi, je préside les jurys de recrutement des chercheurs CNRS des 2 dernières années et les 3 prochaines. Donc c'est un peu là-dessus que je vais centrer quand même l'exposé. Voilà. Mais auparavant, quand même, j'ai fait quelques petits transports introductifs parce que moi-même, je ne suis pas sûr de tout comprendre dans l'organisation du CNRS. Donc, il y a quand même des grands paquets, disons. Donc, le CNRS, c'est un organisme pluridisciplinaire national et il est organisé selon plusieurs directions. Donc, il y a les directions régionales. Hein. Donc, les directions régionales. Elles n'ont pas de rôle de pilotage scientifique ou peu. Disons. Il y en a aussi quand même dans les liens avec les universités, mais peu de rôle de pilotage, surtout rôle de gestion de proximité des personnels, des laboratoires, il y a la gestion de projet, donc la gestion des contrats. Voilà, donc ça c'est une dimension territoriale. Et il y a, je ne sais plus combien de directions régionales, mais elles sont réparties sur tout le territoire français. Je ne sais plus, d'ailleurs, ça a changé récemment. Donc, voilà. Alors ensuite, le CNRS s'est organisé en institut. Et ça, c'est l'organisation scientifique. Donc, c'est dans les instituts que se prennent les décisions. Enfin, formellement, c'est le PDG qui décide, mais c'est les instituts qui, en pratique, décident de la plupart des orientations scientifiques. Et donc nous, on a un institut, une informatique qui est entièrement dans un institut, qui est l'INS2I, l'Institut des sciences de l'information et leur interaction. Voilà. Donc j'en reparlerai peut-être un petit peu après, même si vous pouvez aller voir sur le site du CNRS exactement comment sont définies les missions des différentes des instituts, des directions régionales, etc. Alors, l'autre composante de l'organisation du CNRS, ce sont les unités de recherche. Donc, pour nous, en informatique, 95% ce sont des unités mixtes de recherche. C'est d'ailleurs des unités qui ont pour tutelle le CNRS, mais aussi un autre organisme, en général l'université, une ou plusieurs universités, des écoles d'ingénieurs, d'autres organismes de recherche, INRIA, INRA, etc. Et alors l'unité de recherche, l'UMR, c'est extrêmement important parce que c'est là que le chercheur CNRS exerce son métier. Et le CNRS voit la recherche en France à travers des unités auxquelles il est associé. Bon, la recherche est un travail collaboratif, comme vous le savez tous, et donc c'est l'insertion dans l'unité de recherche, quelque chose qui est important et qui est par le CNRS. Alors, une quatrième composante, et c'est là que je connais le mieux, c'est le Comité national de la recherche scientifique. Donc le Comité national de la recherche scientifique, en principe, est indépendant du CNRS, c'est-à-dire que c'est un comité qui n'a pas de relation hiérarchique avec le CNRS. Il est aussi, comme le CNU, élu aux deux tiers et nommé à un tiers. Et voilà, on est 21 donc dans le comité national en section 6. Je vais en parler plus longtemps après, des missions et de la composition et de la façon dont on fonctionne. Et puis les services centraux, bon, là, je ne vais rien dire de... Enfin, services informatiques, services des ressources humaines, etc. Voilà, donc je parle maintenant du Comité national de la recherche scientifique et des recrutements. Voilà. Donc le Comité national de la recherche scientifique, il est divisé en sections. Donc, je ne sais même plus, il y a 41 sections. Il y a 41 sections et 5 CID, je crois. Voilà, et nous, ce qui nous intéresse le plus ici en informatique, ce sont les sections 6, 7 et les CID 51-53, que je vais essayer de décrire un peu après. Donc nos missions du comité national, donc on s'occupe du recrutement, on agit en tant que jury de recrutement au CNRS, on examine les demandes de promotion, on évalue aussi périodiquement les chercheurs, l'activité des chercheurs, c'est-à-dire, je crois plus loin le détailler, mais disons, tous les 2 ans et demi, on examine les chercheurs de l'ensemble des chercheurs qui dépendent de la section. On évalue les laboratoires, aussi donc les unités associées au CNRS, les groupes de recherche, les GDR, les écoles. On a aussi, par exemple, examine les demandes de délégation au CNRS. Alors, ce qu'il faut, en théorie, le comité national qu'on a co-NRS hein, par opposition au CNRS hein, est indépendant, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut. On ne fait qu'émettre des avis, et c'est le CNRS qui décide, c'est-à-dire l'Institut et la direction du CNRS. En général, les avis sont suivis. Jusqu'ici, ça n'est pas encore arrivé dans ces 2 premières années que nos avis ne soient pas suivis. Et voilà. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Alors, donc on a un site de la section qui est cn6.fr. Auquel je me référais très souvent, parce que je ne veux pas redire ce qu'il y a sur le site, donc en particulier pour les conseils aux candidats ou les critères d'évaluation des chercheurs, il faut aller voir sur le site cn6.fr. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus essayer une des questions. J'ai fait une faute de Paul. Une des questions. Que vous pouvez vous poser, que moi aussi je me pose, c'est le périmètre. Donc, l'organisation de l'informatique au CNRS a une longue histoire, et bon, maintenant c'est à peu près stabilisé, on est tous dans le même institut, et il y a une séparation en 2 sections, donc une qui est purement informatique et une qui est en partie informatique. Donc là j'ai recopié les définitions des 2 sections, hein, 6, sciences de l'information, fondement de l'informatique, calcul, algorithme, organisation, visualisation. Et sciences de l'information, signaux, images, langue, automatique, robotique, interaction, système intégré, logiciel. Bon, ça dit pas tout, hein, donc c'est assez complexe. Ça dit pas tout et il y a des pratiques qui sont pas représentées par cette définition. En fait, il y a les chercheurs qui vont faire des choses qui relèvent de la section 6 qui en fait sont section 7 et inversement. Donc il n'y a pas de frontière très nette, quoi, ce qu'il y a, des superpositions. Et là, j'ai pas mis les deux CID, donc CID, j'ai dit, je crois qu'elles sont sur le transparent d'après. Non, il y a la CID 51, donc elle est. Donc les sections dépendent toutes d'un seul institut, et les CID dépendent de plusieurs instituts. Donc la CID 51, c'est bioinformatique, elle dépend de l'Institut de biologie. Commission interdisciplinaire. Merci, oui, merci de m'interrompre, parce que là, le jargon, il y en a. Hein. Donc les commissions interdisciplinaires, elles dépendent de deux instituts, donc là c'est biologie et informatique, enfin biologie et S2I. Et il y a la commission interdisciplinaire 53 qui dépend de l'ENS2I et des sciences humaines et sociales. Alors j'ai essayé de dessiner un truc. Alors là, je suis sûr que je vais me faire assassiner par les collègues parce que c'est pas comme il faut. Donc c'est une carte très approximative des domaines de recherche en fonction. La répartition en sections des différents domaines de recherche. Donc c'est sûr que c'est pas bon, hein, donc faut pas le prendre. C'est une tentative pour clarifier, enfin, complexifier, je sais pas comment dire. Mais il y a des thèmes qui sont clairement complètement dans la section 7, des thèmes qui sont clairement complètement dans la section 6. Voilà. Par exemple, l'algorithmique, la combinatoire, la programmation sont des thèmes entièrement dans la section 6. En revanche, le traitement automatique des langues, la robotique ou l'interaction de machines sont entièrement en section 7. Après, il y a des cas plus compliqués. Par exemple, si je regarde l'optimisation, il y a une petite partie en section 6. Il y a une partie en section 7 qui est l'optimisation continue, alors que l'optimisation discrète est en section 6. En gros, l'informatique graphique, elle est très largement en section 7. Puis il y a quelques personnes qui vont faire de l'algorithmique géométrique qui vont pouvoir être en section 6. Voilà, donc c'est difficile de mettre une frontière exacte, et tant mieux d'ailleurs, mais on est très copains avec la section 7, donc il n'y a pas de souci pour s'il y a un dossier qui arrive dans la mauvaise section, on l'envoie dans l'autre. Et pour ce qui concerne les candidatures, on peut aussi candidater dans les deux sections si on a un doute. Donc il n'y a pas de gros soucis. Voilà. Alors, les carrières. Les grades. Donc, depuis l'année dernière, il y a unification, il y a une très bonne chose qui est arrivée, c'est l'unification des grades CR1 et CR2 en un unique grade qui s'appelle CRCM, chargé de recherche de classe normale. Voilà. Et il y a création d'un nouveau grade, en revanche, qui est chargé de recherche hors classe. Alors, c'est pas juste un shift, hein, c'est. L'unification des deux grades CR2 CR1, elle s'aligne sur les CR1. Donc, par exemple, du point de vue des rémunérations, c'est un gain quand même pour les jeunes chercheurs qui vont passer, qui vont avoir la rémunération qu'aurait eu un CR1. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et voilà, et CRHC, alors ça a été créé il y a un an, donc on a juste eu une campagne de promotion CRHC, et pour l'instant, elle avait pour objectif, cette campagne, plutôt de faire en sorte que les chercheurs terminent toujours leur carrière, soit CRHC, soit directeur de recherche. Voilà. Donc les plus anciens qui ont fait leur travail pendant toute leur carrière ont été pris en hors classe. Voilà, donc après il y a les DR2, donc directeur de recherche de deuxième plaque. Donc là c'est à nouveau un concours, hein, comme pour les professeurs de l'université dans l'enseignement supérieur. Qu'on examine également, voilà. Donc on peut avoir des candidatures externes, hein, mais s'il y a des candidatures externes, il faut avoir un poste supplémentaire budgétaire. Donc là, je rebondis sur quelque chose qu'on dit Bénédicte, parce que en ce moment on n'a pas de poste ni cette année ni les deux années précédentes de poste supplémentaire pour le concours des R2. Donc on peut pas recruter en pratique de directeur de recherche qui n'est pas déjà chargé de recherche. Aujourd'hui, hein. Ça a été différent dans le passé, ça peut être différent dans le futur, mais là, on ne peut pas. Donc, on peut les classer, bien sûr, mais comme il n'y a pas les ressources budgétaires, ça ne passera pas. Donc, on n'encourage pas du tout les candidatures DR2 externes. Voilà. Ou alors, s'il y a vraiment des cas exceptionnels, il faut prendre contact avec le CNRS qui nous mettent l'année d'après un poste externe, et à ce moment-là, on verra. Voilà, et là j'ai mis des petits pointillés, c'est juste parce que c'est rare. Non, voilà, c'est possible évidemment de zoomer les flèches pointillées, mais c'est rare. Il y a, contrairement aux enseignants-chercheurs, il y a très peu de postes de directeur de recherche de classe exceptionnelle. Je crois que selon les statistiques pour les enseignants-chercheurs, ça doit représenter 15% des professeurs. Et pour nous, ça représente beaucoup moins. Donc voilà les effectifs actuels. Alors c'est pas bon, les chiffres sont pas bons malheureusement, mais ils sont pas bons parce que j'interagis depuis longtemps avec les ressources humaines et j'ai eu la vraie réponse hier. Donc c'est pas inclus dans ce transparent. Donc en fait il y a une différence entre ce que j'ai observé et ce que me donnent les ressources humaines. Et donc j'ai voilà des allers-retours et voilà. Donc selon les ressources humaines, il y a 404 chercheurs dans la section. Moi, j'en ai vu que 322. Voilà, donc, où sont les autres? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des chercheurs qui sont en fait en détachement. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui sont en détachement, il y a des chercheurs qui sont en disponibilité. Donc, c'est les chiffres que j'ai mis entre parenthèses ici. C'est le plus quelque chose, c'est les chercheurs qui sont en détachement, hein, donc qu'on n'évalue pas, qu'on ne voit pas passer. Voilà, donc j'ai pas mis la proportion de femmes, mais j'ai des statistiques si vous me le demandez. Elles sont pas bonnes, évidemment. Mais par contre, elles sont meilleures que dans les autres sections, dans le sens où la proportion de femmes est supérieure chez les directrices de recherche, les directeurs de recherche, que chez les chargés de recherche. Voilà, vous voyez, il y a très peu de directeurs de presse exceptionnels. Voilà. Alors, les missions des chercheurs. Bon, là, je pense que tous les doctorants doivent les connaître à la recherche. Et la recherche, elle est évaluée au travers des publications ou des productions logicielles, par exemple, et du rayonnement. Alors, si vous voulez plus d'informations, à nouveau, je vous invite à aller voir sur cn6.fr, où on détaille les critères et la façon d'évaluer. Je ne vais pas refaire le détail ici. Mais bon, j'ai mis en rouge publication, puisque c'est quand même la façon, et c'est une évaluation qualitative, pas quantitative. L'émission à directeur de recherche, en plus de ce qu'il y a au-dessus, c'est l'encadrement doctoral, le transfert ou la médiation scientifique et l'administration de la recherche. Donc, quelles sont les obligations des chercheurs? Elles ne sont pas énormes. Donc, un chercheur CNRS est très libre, quand même, je trouve. Il doit être présent au laboratoire d'affectation, bon, il ne pointe pas, mais il faut qu'il soit là quand même, que le directeur de l'UMR puisse attester sa présence. Et il doit soumettre tous les ans un CRAC, qui est fait, donc un compte rendu d'activité de recherche qui fait, ça se remplit en quelques minutes, enfin en une heure, et tous les 5 ans, un rapport d'activité complet avec un programme de recherche. Et ça, on l'évalue, nous, on a le temps de regarder, d'évaluer et de conseiller les chercheurs, soit de critiquer, soit de faire des suggestions sur leur rapport d'activité et leur programme de recherche. Et en alternance, donc tous les 5 ans à mi-parcours, on a aussi un rapport intermédiaire d'activité qu'on examine également. Voilà. Et c'est les seules obligations. Hein. Donc c'est vraiment beaucoup de liberté dans sa recherche. Et c'est quelque chose qui existe en France, à l'INRIA aussi, hein, mais qui existe au CNRS à l'INRIA, et qu'on ne trouve pas dans les autres pays. On peut être recruté très jeune, fonctionnaire, et avoir énormément de liberté pour sa recherche. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de postes en même temps, on va le voir tout à l'heure. Alors, les rémunérations. Donc, grâce à la fusion CR1-CR2, on a une revalorisation des carrières. Donc là, j'ai pas fait les calculs aussi objectifs que l'a fait Bénédicte. J'ai fait une moyenne sur les nouveaux entrants des années passées. Donc, qui sont les nouveaux entrants? Il y a un reclassement qui tient compte des années de recherche. Donc, j'ai pris l'échelon 4. Alors, il se trouve que c'est l'indice 594 maintenant. Et tous les nouveaux entrants, systématiquement, ont une prime de recherche maintenant. Donc, on a refuse d'évaluer la PEDR et d'attribuer aux nouveaux entrants systématiquement un certain nombre de 200 euros par mois en plus. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive à avoir 2500 euros en moyenne pour les nouveaux, ce qui est un progrès par rapport aux années passées. Alors maintenant, le concours. Donc il faut aller voir le site du CNRS. Là, je n'ai pas, pas fait le travail qu'a fait mon prédécesseur pour vous dire où il faut regarder très précisément, mais il faut aller sur le site du CNRS voir comment concourir. Donc le concours est ouvert depuis hier, avant-hier. Depuis avant-hier. Et par contre, ce que ne dit pas le site du CNRS, c'est que je vous conseille quand même, c'est d'aller voir les recommandations que nous mettons sur notre site et qui indiquent non seulement les critères, mais aussi la forme que nous souhaitons voir prendre au dossier de candidature. Alors, une chose qui est importante, c'est aussi que le travail se fait dans des UMR. La recherche, c'est un travail d'équipe, donc on candidate dans une unité. Je dis UMR, ça peut être UPR aussi, hein, pardon, il y a quand même une UPR, toi. Il y a des chercheurs de la section. Et il faut proposer au moins deux unités d'accueil hein, quand on candidate, et pas celle où la thèse a été effectuée. Donc on insiste sur la mobilité. Si vous proposez une UMR dans laquelle vous avez fait votre thèse, bah juste c'est comme si vous n'avez rien proposé. Il faut savoir que l'affectation ne dépend pas du comité national, elle dépend de l'Institut. Nous, on ne décide pas des affectations des chercheurs. Dans la majeure partie des cas, les chercheurs sont affectés dans une des équipes qu'ils ont proposées, mais pas toujours. Et alors les exceptions, quelqu'un qui m'a posé la question, c'est incroyable, les gens que je connais, ils ont été affectés, on ne sait pas pourquoi ils ont été affectés là. Alors il faut faire attention parce que, évidemment, il faut que ce soit que les unités que vous proposiez soient aussi des unités où la section 6, donc si vous êtes candidat en section 6, la section 6 soit partenaire, sinon, c'est pas possible d'affecter un chercheur dans cette unité. Donc si vous proposez, il y a eu le cas, chaque année il y a eu le cas, trois affectations, il y en a une, c'est une unité qui n'est pas associée au CNRS, l'autre c'est une unité qui est associée mais en section 41, et que la troisième c'est une unité de thèse, ben, voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Et donc là c'est l'Institut qui décide où mettre le chercheur. Alors normalement ça se fait en concertation avec le chercheur, donc on lui demande son avis avant. Quoi. Donc évidemment il faut qu'il y ait un programme de recherche et qui, s'il y a plusieurs équipes d'accueil possibles, ça peut être plusieurs pour un programme de projet de recherche. Alors, j'ai mis les jurys. Vous pouvez assister aux auditions. Hein. C'est vrai que c'est public aussi de ce point de vue-là, mais ce que je voulais dire ici, c'est que la composition des jurys est publique. Voilà. Et c'est le même jury tous les ans, donc, sauf conflit d'intérêts qui exclut un des membres du jury. Donc, les critères sont publics, hein, et je vous invite à les regarder. Et la seule chose qui est demandée, c'est un doctorat ou équivalent au moment de l'examen de la candidature. Donc là, c'est un point qui n'est pas clair dans les textes, puisque le texte ne dit pas précisément quand est-ce qu'on doit avoir soutenu. C'est un petit peu délicat. Là, je ne sais pas si... Enfin, le cas, ce n'est pas vraiment présenté, mais si vous posez la question, je ne saurais pas dire si vous soutenez le 15 janvier, est-ce que la candidature est acceptable pour l'année en cours. Je ne saurais pas le dire. Voilà, bon... Après, une question qui est souvent posée, que plusieurs collègues m'ont posée par mail, donc je réponds d'avance, c'est que il n'y a pas de limite d'âge hein, pour candidater. Il n'y a pas, de toute façon, on ne regarde pas l'âge, mais il n'y a pas de limite d'expérience pour les candidatures, mais on va privilégier les candidats qui ont 7 années au maximum d'expérience de recherche, thèse incluse, et au moins une année de postdoc. Donc là, je vais répondre à une question qui a été posée pour les maîtres de conférence, mais pour nous, c'est quand même presque une condition nécessaire. C'est pas nécessaire formellement, mais en pratique, c'est l'aide. C'est d'avoir fait une année de postdoctorat. Voilà. Alors, Alors, c'est cette année, attention, bon, si pour les femmes, les maternités s'enlèvent une année, si vous avez passé un an enfin, ça rajoute une année. Si vous avez passé un an à faire une activité qui n'est pas une activité de recherche, ça ne compte pas, etc. Et alors, un autre point, c'est qu'on essaye d'avoir une évaluation qualitative, donc on invite les candidats à joindre 3 publications à leur dossier. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. Et chacune des publications est donnée à un rapporteur qui lit la publication, donc qui en fait un résumé à la section. Donc on essaye plutôt, par ce biais-là, de privilégier la qualité. Donc que chacun, par la discussion du contenu de la publication et pas juste par l'endroit ou le nombre de publications, on évalue mieux la qualité des dossiers. Donc on a un jury d'admissibilité sur dossier, donc qui JAD, donc là j'ai mis le produit puisque ça voulait dire, c'est qui décide qui peut passer les auditions. Donc les résultats sont publics sur le site du CNRS. Et ensuite, après les auditions, il y a un jury d'admissibilité, donc on propose un classement qui est aussi public, enfin qui est public pas sur le site, si qui est sur le site du CNRS aussi, qui est public. Et ensuite, il y a un jury d'admission, donc là, c'est le jury d'admission, il est composé, donc j'en fais partie, mais il y a des personnalités extérieures, il y a des représentants de l'administration, et on défend le classement proposé. Donc si je le défends bien, normalement, il est accepté, et voilà, et c'est enterré, c'est ce qui s'est passé les 2 années précédentes. Enfin, voilà, mais c'est le jury d'admission qui décide. Hein. Des statistiques. Alors, on va sur des chiffres. Alors, c'est compliqué parce que... Enfin, c'est compliqué. Il faut faire attention parce que le CNRS, la division en section, elle a évolué depuis... au cours du temps. Et donc, la section 6 et 7 n'existent pas depuis si longtemps. Donc, mes statistiques, elles portent sur le nombre de chercheurs recrutés par année et qui sont actuellement dans la section 6. Donc, comme ça, voilà. Alors on peut, voilà, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de recrutements dans les années 2005-2009, hein, ok. Et aujourd'hui, bah, ça n'a pas tendance à être folichon. Hein. On a eu, l'année dernière, on a eu 10 recrutements. Alors, quand je parle des recrutements, là, je parle tout concours confondu. Donc, quelquefois, il y a plusieurs concours. Cette année, il y en aura qu'un en 2019, mais quelquefois, il y a plusieurs concours. L'année dernière, il y en avait 2. Il y a 2 ans, il y en avait 3. Donc tous les concours qui recrutent un chercheur en informatique, hein, qui dépend de la section 6. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis après? Alors, en 2017 et 2018, donc voilà, il y avait en 2017, par exemple, il y avait 8 postes et on a recruté 9. Donc là, c'est dû au fait que l'Institut avait mis un poste dans une autre section. Et le concours n'a pas été fructueux, enfin il n'y a pas eu de personne en informatique pour être dans un laboratoire de biologie, ou je ne sais plus ce que c'était exactement dans ces sciences humaines. Non, c'était le contraire, c'était un laboratoire, je ne sais plus, enfin, vous voyez, un concours qui n'a pas été fructueux, et donc l'Institut a essayé de reverser un poste dans la section, ce qui nous a donné un poste supplémentaire. Par exemple, et là au contraire, on en a perdu un pour une raison analogue. Donc il y a 2 concours, il y en a un qui n'a pas été fructueux et un poste de groupe. Voilà. Donc là, les nombres de candidatures. Alors, quelque chose qui est très surprenant, que je n'ai pas réussi à analyser complètement, c'est que l'année dernière, il y a eu une chute du nombre de candidatures, assez significative quand même, parce que je n'ai pas mis les chiffres de 2016, mais ils sont plutôt de l'ordre de 180-200. Et je ne sais pas pourquoi, alors qu'il y avait plus de postes. Bon, mais voilà, donc il y a. L'année dernière, il y a eu moins. Alors, c'est les nombres de. Là, j'ai pas mis le nombre de candidats. Quand il y a plusieurs postes, il peut y avoir des candidats sur plusieurs concours. Donc, c'est le nombre de candidatures, attention. Hein. Il y a moins de candidats que ça. Il doit y avoir 120 ici et puis 160 ici. 170 ici. Alors, ben aujourd'hui, c'est tombe bien. Donc, j'ai fait ce transparent juste après. L'apparition de l'appel d'offres qui est publié au journal officiel donc avant-hier, donc qui est sur le site du CNRS à midi. et donc qui, pour notre section, se limite à 8 postes de chargé de recherche de classe normale et qui mentionne un certain nombre de thèmes prioritaires. Donc une des questions qu'on m'a posées aussi beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait pour les thèmes prioritaires? Comment est-ce que c'est traité? Qu'est-ce que ça veut dire, thème prioritaire? Alors c'est un titre indicatif, de toute façon, ce qu'on nous demande, enfin c'est comme beaucoup de choses, c'est une injonction contradictoire, c'est qu'on dit vous recrutez les 8 meilleurs candidats, et voilà, et vous recrutez sur ces thèmes-là. Voilà. Donc c'est un petit peu comme on nous dit, vous recrutez, il faut recruter les femmes, et pour recruter les meilleurs candidats. Donc si ça ne coïncide pas, on est embêté. Voilà. Donc on essaye de concilier ces objectifs contradictoires. Okay. Et donc, l'année dernière, on n'a pas recruté sur les thèmes prioritaires, on n'a pas suivi à la lettre les thèmes prioritaires, ça dépendait des candidatures, donc on va faire pareil, on essaye de faire pour le mieux, mais on n'est pas, on ne se sent pas complètement contraint par ces thèmes prioritaires, mais on en tient compte dans l'évaluation. Ok, donc je vais sauter ça, et je termine par ce transparent qui rejoint les questions qui ont été posées pour mes deux conférences, qui est... des statistiques sur, alors là c'est juste sur l'année dernière, donc c'est tout petit nombre, il faut faire attention, qui, le nombre d'années d'expérience, thèse incluse, des candidats qu'on a classés, voilà. Pour vous donner une idée de l'expérience après la thèse. Donc là, évidemment, si la thèse est en 3 ans, vous pouvez dire, c'est moi ici à gauche, là c'est moins d'un an après la thèse, 2 ans, 3 ans, etc. Voilà, donc il y a... La majorité, évidemment, va se situer à moins de 7 années d'expérience, l'immense majorité, puisque c'est ce qu'on souhaite, et c'est là ce qui fait la force, c'est là, c'est pour recruter les jeunes chercheurs. Bon, je m'arrête là. Je prends les questions.